Achille Mbembe, qui va être le dernier intervenant, est camerounais, mais il n'est plus camerounais, puisque lorsqu'on devient philosophe, on donne la patrie à tous ceux qui adhèrent à l'imaginaire ou n'adhèrent pas. Depuis son ouvrage intitulé « De la post-colonie », traduit ici en France en 2000, et traduit et publié en France en 2000 aux éditions Cartala, la nouvelle édition a été augmentée en 2005. Achille Mbembe s'est affirmé désormais comme un des penseurs les plus féconds et les plus talentueux dans les domaines qui relèvent de l'histoire, de la sociologie et de la philosophie politique. Il n'a donc cessé de questionner la nature des rapports de l'Occident avec l'Afrique, traversée par ce qu'il appelle une culture de la violence. Et son dernier livre, l'écho s'est fait de plus en plus, intitulé « Politique de l'inimitié », vient de paraître chez La Découverte. C'est avec plaisir aussi que j'ai accepté l'invitation qu'il m'a faite ce samedi 7 mai, d'aller le présenter avec lui le 7 mai là, au musée d'Appert, à partir de 14h30. C'est donc non seulement avec joie que je le reçois, parce que ce n'est pas toujours facile de mettre la main sur Achille Mbembe, à tel point que je reçois plus de coups de fil, non pas pour me demander « je viens », mais pour me dire « mais comment tu as fait pour l'avoir ?» Donc voilà. Eh bien, on a tout fait pour l'avoir. J'ai des techniques, j'ai pu l'avoir ici, qu'il viendra maintenant nous parler de ces sujets très intéressants sur l'afropolitanisme et l'afrofuturisme. On a entendu les afrodescendants, les afro... Maintenant, on va écouter le théoricien qui va certainement nous en apprendre des choses. Après, je vous ferai une petite surprise de 3 minutes après qu'il aura parlé. Et puis, puisque le temps passait trop, eh ben, c'est l'animateur qui diminuera sa conclusion. Ah bon ? Oh, mais non, faites pas semblant pour me faire plaisir. Mesdames et messieurs, mon grand ami et grand professeur, Achille Mbembe.
Bon, alors, puisque Alain a des problèmes avec des termes comme afropolitanisme, afrofuturisme et ainsi de suite, je crois que le prochain livre portera plutôt sur Petit Piment. Alors tout ou presque tout a été dit, d'abord par Alain lui-même lors de sa leçon inaugurale, puis par tous et toutes celles qui sont intervenues sur cette scène depuis 9h30, et desquelles, moi en particulier, j'ai énormément appris. Du coup, il n'y a presque plus rien à dire. Mais puisqu'il faut tout de même dire quelque chose, je vais me contenter de quelques miettes, de quelques restes et de quelques fragments. Je dirais pour commencer qu'il y a des signes qui ne trompent guère, des signes avant-coureurs qui indiquent clairement que quelque chose se prépare, même si ce quelque chose n'a pas encore de nom. Souleymane, qui est assis au premier rang ici, et moi-même étions ici au mois de janvier, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères d'alors, M. Fabius, à l'occasion de la Nuit des idées. Plus de 15 000 personnes avaient alors défilé au Quai d'Orsay. Peu après, Alain a donné sa leçon inaugurale ici même, dans cette vieille institution qu'il a occupée, comme vous l'avez tous vu, sans complexe, élégamment, mais surtout à la manière d'un ouragan. Et pour ceux d'entre nous qui nous intéressons au devenir de cette institution, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il y aura désormais un avant et un après Mabankou, ce qui n'en fait cependant pas encore l'équivalent du Christ. Je crois que la présence d'Alain dans cette institution, tout comme celle de son frère jumeau à l'Académie française, montre que nous vivons un moment intellectuel à la fois sombre, mais en même temps plein d'espérance. Sombre dans la mesure où, à peu près partout, et pas seulement en France, nous assistons au triomphe de l'opinion et à la défaite apparente des savoirs. Le néolibéralisme ayant entraîné, je dirais, le triomphe des idées toutes faites. La pensée complexe est en passe de s'effondrer sur fond de risque d'une droitisation radicale du monde et sur fond d'hystérisation des identités, ce qui me fait dire qu'on est à la veille d'un processus historique puissamment réactionnaire, caractérisé par un désir inconscient de fascisme, voire d'apartheid, ou encore les deux. Et cette journée, donc, qui aura été à la fois remarquable et mémorable, avance maintenant vers sa fin. Et je voudrais revenir rapidement sur ce qui nous aura rassemblés, à savoir la pensée de l'Afrique, la pensée de l'écriture, ce qui est en jeu dans le geste qui, aujourd'hui, consiste à écrire l'Afrique, que cette écriture se fasse à partir du continent lui-même, de ses marges, de ses océans ou de ses multiples ailleurs et diasporas. Or, cette question n'est pas neuve. La question de savoir qu'est-ce qui est en jeu dans le geste qui consiste à penser et à écrire l'Afrique. Elle n'est pas neuve et je voudrais indiquer, disons, quatre types de réponses à cette question qui nous habitent au demeurant depuis au moins le XIXe siècle. Nous avons, quand je dis nous, je m'inscris dans cette longue lignée, nous avons écrit et pensé l'Afrique, premièrement, dans le but de rétablir un nom. L'Afrique ayant été revêtue d'un masque, l'Afrique ayant été perçue comme une entité fourre-tout, vaseuse et sans poids ni relief historique, au sujet de laquelle n'importe qui peut à peu près dire n'importe quoi sans que cela prête à aucune conséquence. Et donc, il fallait réhabiliter le nom. Nous avons pensé et écrit l'Afrique dans le but, deuxièmement, de ramener à la vie ce qui avait été abandonné aux puissances de la négation, de la défiguration et du travestissement. Troisièmement, nous avons écrit et pensé l'Afrique dans le but de réouvrir l'accès aux gisements du futur. D'abord, le futur de l'humanité, ce que Glissant appelait le tout monde, mais surtout le futur de ceux et celles-là dont il était difficile de dire quelle était la part de l'humain et quelle était celle de la chose ou de l'objet. Nous avons, quatrièmement, pensé et écrit l'Afrique dans le but de contribuer, comme le signalait Lydie ce matin, de contribuer à l'avènement d'un monde habitable. Il me semble que telles sont les raisons pour lesquelles une grande part de notre écriture peut être caractérisée comme une écriture de la transfiguration, qui oscille entre le vertigineux, la dissolution et l'éparpillement. Cette écriture, la transfiguration, est typique du roman. Je pense en particulier à quelqu'un comme Tutuola, Wologwem, Sonila Boutansi, que l'on a cité ce matin. Qu'il s'agisse de la philosophie, Souleymane il est là, Ibusi Boulaga, qu'il s'agisse de la poésie, Senghor, Césaire, ou qu'il s'agisse des arts plastiques, de la musique, du théâtre dont nous parlait Dieudonné ce matin, de la danse ou même de la para. Donc voilà pour l'écriture. Mais qu'en est-il de l'Afrique elle-même? L'Afrique est née au monde moderne, je dirais, sous le signe de la circulation. L'Afrique est présente au fond baptismaux du Nouveau Monde. Et en fait, c'est du Nouveau Monde que nous vient l'idée moderne de l'Afrique. C'est en cela que notre rapport aux Amériques ou aux Caraïbes est fort différent de notre rapport à l'Europe. Car il n'y a pas d'Amérique sans une part de chair africaine. Les Amériques sont faites de notre chair et de notre verbe. L'Europe, par contre, surgit dans notre histoire sous le visage de ceux qui cherchent à nous limiter. Nous sommes sa frontière, son extérieur, du moins à ses yeux. Nous sommes perçus comme une greffe. L'Europe estime que nous ne faisons pas partie de ses géniteurs. Or, on ne peut pas en dire autant des Amériques. Nous sommes des co-géniteurs des Amériques. L'Afrique qui naît au début du XIXe siècle dans l'imagination des esclaves et leurs descendants est évidemment une entité géographique, un lieu physique, mais elle a aussi et surtout une idée I majuscule. Elle est surtout un horizon, elle est un projet, elle est un rêve. Le rêve d'un lieu de la planète où être noir ne serait plus un handicap ou un problème. Un lieu où les gens d'origine africaine ou les descendants d'Africains n'auraient plus à se justifier, à justifier qui ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi sont-ils ce qu'ils sont. Un lieu où leur droit à l'existence ne serait pas remis en cause. Un lieu où ils ne subiraient plus le harcèlement au quotidien. À partir du XIXe siècle, l'Afrique est donc un concept politique, un certain imaginaire de la transnationalité, de la citoyenneté de la nationalité en tant que fait par définition transnationaux. Et cette idée d'une Afrique en tant que le lieu d'une entité dénationalisée, le lieu d'habitation d'un peuple transnational, est au fond une idée précoloniale. Dans la mesure où, avant la colonisation, notre conception des territoires et des espaces est mobile, nous sommes peut-être les seuls, avec les nomades d'Asie, les seuls à avoir inventé des empires caravaniers ou à avoir développé le commerce à longue distance. Et donc, je pense que pour le temps qui vient, il nous faut récupérer cette idée de la transnationalité et la circulation. Je vais dire deux autres mots sur l'Afrique et avancer vers la conclusion. Évidemment, pour ceux qui s'intéressent au désastre, à la dictature, nous sommes un énorme laboratoire. Des satrapies qui n'en finissent plus. Le gouvernement, par la négligence et à perpétuité, une classe politique parasitaire, des peuples apparemment avachis, du genre que décrit d'ailleurs Césaire dans les premières pages de son cahier de retour au pays natal. Évidemment, il y a tout cela. Boko Haram, Ebola, des guerres civiles sans fin, des pandémies, et ainsi de suite. Mais au regard du présent et de l'avenir, il n'y a pas que cela. En fait, il y a quelque chose de profondément radical qui est en gestation. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier a trait à la force du nombre. Dans 30 à 50 ans, plus d'un habitant de la Terre sur trois sera africain ou de descendance africaine. Le monde de demain sera africain, d'un point de vue démographique. La transition démographique est loin d'être terminée. Et en fait, d'un point de vue démographique, l'on assiste à un basculement de notre monde en direction de l'Afrique et de l'Asie. Dans 30 ans, l'Europe sera un continent de vieillards. La question qui se posera à nous sera celle de savoir comment transformer cette dividende démographique en facteur de production de nouvelles richesses. Eh bien, la réponse, on la connaît, en investissant en priorité dans l'éducation, dans la santé, dans la formation de ce que Célestin et ses amis appellent le capital humain, puisque pour eux, tout est capital. En investissant évidemment aussi dans l'eau, dans l'énergie, en investissant massivement dans les infrastructures, les ports, les chemins de fer, les autoroutes régionales, l'objectif étant de transformer le continent en un vaste espace de circulation. Nous devons ouvrir l'Afrique à elle-même, et cela suppose, je vais rêver avec vous, l'abolition des frontières héritées de la colonisation. Pourquoi ? Parce que le coût des frontières héritées de la colonisation est devenu exorbitant. Nous souffrons d'une double pénalité. Nul ne veut des Africains ailleurs et nous donnons l'impression de ne pas en vouloir chez nous-mêmes. Nous, cela ne peut pas continuer. Cela ne peut tout simplement pas continuer. Nous disposons de l'un des continents les plus massifs au monde. Si vous prenez l'avion à Dakar le matin à 8 heures, vous arriverez au Cap après un vol d'à peu près une journée. 12 heures de temps, non-stop. Et donc, il n'y a aucune raison objective pour que la Méditerranée se transforme, Françoise évoquait les océans, en nouveau cimetière, en cimetière du XXIe siècle pour les Africains. Pour que tel ne soit pas le cas, nous devons ouvrir le continent sur lui-même. Nous devons ouvrir les frontières quand d'autres construisent des murs. La question de l'Afrique est en passe de devenir une question chinoise. Le gouvernement chinois lui-même prévoit l'implantation en Afrique dans les 25 années qui viennent d'à peu près 3 millions de Chinois. Il nous faut ouvrir les bras à ces 3 millions de Chinois. Il nous faut observer de très près les recompositions spatiales et urbaines qui ont cours et qui s'accompagnent de l'émergence de grands corridors métropolitains qui, à s'y méprendre, fonctionnent de plus en plus sur le modèle de véritable cité-État. Je pense par exemple au gros couloir métropolitain qui relie Lagos à Accra et à Lomé. Je pense également à Johannesburg, à Kinshasa ou aux grandes conglomérations urbaines telles que Luanda. Ces recompositions sont également culturelles, point de vue linguistique, et Souleymane avait raison de dire que le français, l'anglais, le portugais sont des langues africaines. Combien de temps faut-il avoir pratiqué une langue pour qu'elle s'inculture, qu'elle devienne la vôtre? Donc il est temps de les reconnaître comme des langues africaines, dénationaliser le français, rejeter ce concept de francophonie qui ne veut rien dire, puisque sans l'Afrique, le français est une langue purement ethnique. C'est l'Afrique qui universalise, qui donne aux Français ses attributs d'universalité. Je vais terminer, puisque Alain doit quand même parler. Trois points. L'Afrique doit devenir son propre centre et sa force propre. Pour y parvenir, il faut la transformer en un vaste espace de circulation. Deuxième point, l'avenir de la planète se joue en grande partie en Afrique. Il y a, je le suggère, une planétarisation de la question africaine à laquelle il nous faut faire attention, faut prêter attention. Troisième point, et ceci à l'adresse des minorités, puisque l'on en a parlé abondamment cet après-midi, dans une large mesure, tant que l'Afrique n'est pas debout, sa force propre, la situation des minorités d'ascendance africaine dans le monde ne s'améliorera point. Votre destin en Europe, aux États-Unis et ailleurs, est lié, que vous le vouliez ou non, au devenir du continent. Tant que le continent est à genoux, votre humanité pleine et entière sera toujours remise en question où que vous soyez. Pour le reste, le temps de l'Afrique approche. Il n'adviendra peut-être pas de notre vivant, mais c'est à en précipiter l'avènement que l'écriture et la pensée africaine sont appelées. Et alors qu'Alain se prépare à clôturer cette remarquable journée, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, nous avons ensemble fait un grand pas en avant dans cette direction. Merci beaucoup.